L'actualité des idées dans la deuxième partie de la Grande Table. Résilience, disent-ils. Trois mois après l'attentat de Nice, au lendemain de l'hommage national rendu aux victimes, les Français tentent de marginaliser leurs peurs, de refouler les haines, de croire encore en ce qui les unit pour garder sur pied un pays qui peine à se relever, une société qui voudrait faire corps pour elle-même et pour ne pas tomber dans le piège de la division. Démocratie sous stress, les défis du terrorisme global viennent de paraître au PUF. Dans ce court essai qui n'oublie ni le traumatisme de l'attentat, ni la crainte d'une dislocation du monde, ni l'angoisse d'un effondrement de la cité. Avec le constitutionnaliste Michel Rosenfeld, Antoine Garapon évalue les réponses institutionnelles à ce choc. À la France est en guerre, il préfère voir dans la situation actuelle une épreuve démocratique qui met sous pression, sous stress, constitution et institution. Antoine Garapon juge sur la réserve, magistrat intello pour la Croix, secrétaire général depuis 91 de l'Institut des hautes études sur la justice et qui officie désormais chaque jeudi dans les discussions du soir sur France Culture. Dernière émission en date, dernier entretien avec Stéphanie Balm, juriste spécialiste de la Chine. Auteur auparavant de Bien jugé, essai sur le rituel judiciaire en 97, des juges dans la mondialisation, des nouvelles sorcières de Salem ou autres leçons d'Outreau, ou encore de peut-on réparer l'histoire et la raison du moindre état. Et Antoine Garapon écrit beaucoup de livres, on l'entend, mais il dirige également la rédaction de la revue Esprit. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Je ne me moque pas, je suis très respectueuse. J'essaie d'illustrer ce qualificatif de magistrat intello dont vous avez consacré la croix il y a quelque temps. Antoine Garapon, vous êtes magistrat. Êtes-vous lâche pour autant ? Je fais référence bien sûr aux propos de François Hollande tels qu'ils ont été retranscrits dans le livre de Gérard Davet de Fabrice Lhomme, un président qui ne devrait pas dire ça et qui qualifiait donc dans ses propos restitués la magistrature comme une institution de lâcheté. Donc êtes-vous lâche ?
C'est sûr que le président ne devrait pas dire ça. Moi je suis appliqué à construire de manière imaginative, créative, l'état de droit, à le protéger, à le défendre dans ces périodes qui sont tout à fait nouvelles, tout à fait inédites. Voilà. Et c'est cette application, moi, pour moi, ce qui me concerne, de le penser, pour mes collègues, de la mettre en œuvre, que je m'attache, et pas au qualificatif ou du président de la République.
Mais c'est plus que symbolique quand même. Une lettre d'excuse a été adressée depuis par le président au CSM. Un hommage appuyé a aussi été rendu aux magistrats samedi lors de la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats, de l'attentat de Nice. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça dit des relations entre le politique et le judiciaire?
Des relations,
le pouvoir exécutif et cette institution qu'est la justice, tendue quand même depuis quelques années.
Plus que tendue, et elles sont particulièrement tendues, voire exécrables dans notre pays. Je crois que c'est une particularité de la construction de l'État en France, qui s'est fait par l'État administratif, par le pouvoir et secondairement par les juges. C'est une différence à l'égard de, bien sûr, des pays de common law, de l'Angleterre ou des États-Unis, mais ça, c'est ce qui est plus intéressant, c'est que c'est aussi une différence à l'égard de nos voisins les plus proches qui ont connu des phases sombres de dictature, de régime autoritaire comme l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne et qui connaissent le prix des droits fondamentaux. En France, nous sommes toujours marqués par une sorte d'anti-juridisme et je crois que le président de la République a exprimé ce sentiment que est très ancien et qui a partie lié d'ailleurs avec la Révolution française qui était, ne l'oublions pas, une révolution contre les parlements et contre les parlementaires.
Dans cette idée de lâcheté, il y a quand même quelque chose qui est intéressant et ça nous amène directement à votre essai, à votre livre, Antoine Garapon. C'est la question du positionnement des pouvoirs, pas simplement de l'exécutif, face à cette crise induite par ce nouveau terrorisme aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'exécutif a eu le sentiment, dans sa réaction, de ne pas pouvoir suffisamment s'appuyer sur l'institution judiciaire, qu'elle ne l'épaulait pas suffisamment dans son action politique?
Je ne pense pas, il n'aurait aucune raison de le penser. Ce que je constate, c'est qu'il s'est épaulé plus sur la juridiction administrative, dont il est beaucoup plus proche, dont il partage la culture, parce que c'est ainsi, c'est l'histoire de nos institutions. Et nous devons d'ailleurs au Conseil d'État un grand nombre de nos libertés, mais c'est une juridiction qui, encore une fois, a la même culture que l'État. Je crois que ce que ne supporte pas l'État, mais c'est pas nouveau d'ailleurs, et propre à ce président de la République, c'est l'extériorité de la loi. C'est l'idée que des gens qui sont en dehors de leur culture, qui sont en dehors de leur cercle, puissent porter un regard, celui d'un tiers impartial et indépendant, sur l'action de l'État lorsqu'il concerne les libertés individuelles. Et je crois que c'est véritablement cette extériorité du pouvoir judiciaire. En France, on comprend bien que la loi soit l'expression du souverain. On comprend moins bien qu'il soit contrôlé par des juges.
Et la temporalité, ce qui est un des points importants de votre livre, l'espace et la temporalité ne sont pas du tout les mêmes, effectivement, pour le politique aujourd'hui que pour le judiciaire. Benoît Bouscarel, vous levez la main quand vous avez à intervenir ou vous nous dites. En tout cas, vous êtes avec nous aussi jusqu'à
13h30. Voilà, j'aurais une question à suivre, effectivement.
J'ai intitulé l'un de mes ouvrages, Le gardien des promesses, le juge et la démocratie. Je crois que c'est cela, véritablement, la fonction du juge. Le pouvoir du juge, c'est pas un pouvoir personnel, parce qu'il y a toujours des juges au pluriel, et parfois ils sont très nombreux. Et parfois, même certains ne sont pas seulement français, comme le juge européen. C'est-à-dire que c'est un pouvoir incrémental, c'est un pouvoir qui intervient par de multiples petites décisions. Et je crois que les juges ne tirent leur légitimité que de rappeler au souverain les promesses et les promesses historiques que le constituant de 1946, que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 ont fait. Nous sommes là pour assurer que ces promesses seront bien tenues.
Antoine Garapan, il y a une question qu'on pose toujours à nos invités en ouverture de cette émission, comme un préambule. Comment allons-nous pour vous ?
Pas très bien. Pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que le terrorisme, par certains côtés, est autant un symptôme qu'une cause. Le terrorisme est autant le symptôme d'une transformation profonde de notre société, de notre monde d'ailleurs. La France n'est pas du tout seule dans cette galère, si vous me passez l'expression, mais il est certain que ça révèle une fragilité typiquement française qui tient à son histoire de ces 50 dernières années. Et je crois que autant les sociétés, des sociétés comme l'Angleterre ou les États-Unis ont dans leur besace, dans leur tradition culturelle et politique, de quoi faire face à l'altérité, c'est moins le cas de la France.
Benoît Bouscarel.
Dans le livre dont on parle depuis tout à l'heure, un président ne devrait pas dire ça. On apprenait aussi que François Hollande, finalement, a toujours été contre le principe de la déchéance de nationalité pour les terroristes condamnés. C'est le signe que lui non plus ne va pas très bien. Là, on est dans une situation de stress.
Tout à fait.
Qu'on peut voir et qu'on peut étudier.
Tout à fait, et ça me semble tout à fait révélateur, au-delà de tel ou tel propos tenu par le président de la République. Ce qui me semble très intéressant, c'est cette volonté d'être à la fois Louis XIV et Saint-Simon. C'est d'être à la fois celui qui exerce le pouvoir et celui qui commente le pouvoir. De tenir en même temps une parole publique et une parole privée. Comme si le propre de la parole publique n'était pas précisément d'exprimer une volonté générale, une volonté qui représente la nation et non pas des sentiments personnels. Quand le général de Gaulle a réagi assez brusquement à la censure du Conseil d'État, par le Conseil d'État, de son projet de haute cour militaire, il a réagi de manière institutionnelle et politique, en proposant une réforme du Conseil d'État. Et donc, il a réagi en homme d'État. Et personne ne connaît, en dehors de la lecture de ses mémoires, la pensée profonde et personnelle, les sentiments que le général de Gaulle avait vis-à-vis.
Donc finalement, maintenant, 6 mois après cet épisode, ou un peu plus, et à la parution de ce livre, on s'aperçoit que François Hollande n'a pas agi, et si on vous suit, Antoine Garapan, en chef d'État.
En demi-chef d'État, pourrait-on dire, c'est-à-dire dans un chef d'État qui n'assume pas totalement sa fonction. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés que nous rencontrons, notamment vis-à-vis du terrorisme, c'est-à-dire que le terrorisme révèle une difficulté spécifique à tous les États, mais notamment à la France, à exercer son pouvoir souverain. Et j'en veux pour preuve l'ouverture d'un centre d'un centre contre la radicalisation, le premier, ouvert sous l'égide du ministère de l'Intérieur, et où les garçons qui s'y trouvent, parce qu'il ne s'agit que de garçons, sont là à leur demande. Comme si nous n'étions pas capables de tenir le discours de la loi, en l'occurrence, pour ce qui concerne les juges, d'exercer une contrainte et de l'exercer en ayant confiance en nous-mêmes. Ce que révèle le terrorisme, c'est la fragilité des institutions, pour le dire de manière un peu plus pédante, la désymbolisation. Et il me semble que ce livre est un symptôme de cette désymbolisation des institutions, c'est-à-dire cette perte de substance du pouvoir politique, qui est un pouvoir très original, qui n'est pas un pouvoir personnel, qui est un pouvoir qui est toujours exercé au nom d'eux.
Parce que nos institutions sont sous stress, ou plutôt sous pression, une pression pratiquée, engendrée par ce terrorisme que vous définissez très rapidement comme un terrorisme global. Alors on va repartir du livre, et notamment du cadre que vous avez donné à cette réflexion, à cette analyse. Vous n'avez pas choisi de limiter cela à l'Hexagone. Pourtant, c'est quand même la France qui est aussi particulièrement touchée depuis presque 2 ans avec ses voisins comme la Belgique. Vous inscrivez votre réflexion dans le cadre de la mondialisation du terrorisme. Pourquoi ce choix d'échelle ?
Parce que d'emblée comparatif. Parce qu'il me semble que ce défi est commun parce que dans le fond, il montre une nouveauté tout à fait inédite. Nous étions habitués à un terrorisme ethno-nationaliste, c'est-à-dire par exemple le FLN, la guerre d'Algérie, le terrorisme corse ou basque. Nous étions habitués à un terrorisme politique, comme aux États-Unis, par exemple, les suprémacistes blancs. Mais aujourd'hui, on assiste à quelque chose de tout à fait nouveau, parce que il n'y a plus ce terreau commun qui n'est pas le rapport à la terre, par exemple avec le FLN, qui n'est pas non plus la politique, comme les Brigades Rouges. C'est-à-dire que le terrorisme global, il manque de cet élément commun qui nous permet de le comprendre, de nous le représenter, de le combattre et de trouver des solutions politiques.
Alors on va écouter la parole de l'historienne Jenny Raflick, que vous citez également dans votre ouvrage et qui était en mars dernier l'invitée des Matins de France Culture à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Terrorisme et mondialisation ». Elle fait une typologie des terrorismes aujourd'hui. Vous nous dites après si d'après vous le terrorisme actuel, celui que vous ciblez dans cet ouvrage, entre dans une de ces 3 catégories.
Je dégage dans le livre 3 grandes familles de terrorisme et il me semble qu'effectivement il peut se rattacher à une famille. Alors, les 3 familles, il y a un terrorisme qui finalement est peut-être le plus simple à identifier, qui est le terrorisme qu'on peut qualifier d'ethno-nationaliste, indépendantiste, qui vise...
Voilà, qui a des revendications territoriales,
qui vise un État. Hein, ça c'est assez simple, c'est ETA, c'est l'IRA, voilà. Il y a un terrorisme idéologique qu'on voit clairement du 19e jusqu'à aujourd'hui, qui transcende justement les frontières territoriales pour en créer d'autres, des frontières sociales notamment, la famille classiquement, des anarchistes, des groupes d'extrême gauche des années 70-80. Et puis on a un terrorisme identitaire qui me semble être un peu, finalement prendre un peu des 2 autres, s'ancrer dans un territoire qui peut être un territoire mythifié, fantasmé, imaginé. Là, le califat, par exemple, qui est un territoire politisé aussi, et largement fantasmé, je pense, mais avec une dimension identitaire, quitte à se recréer une identité et à chercher, pourquoi pas dans la religion, là, un vecteur identitaire. Je le rapprochais un petit peu du Ku Klux Klan, par exemple, vous voyez, qui se rattache à un territoire mythifié et à une identité.
Alors, Antoine Garapon, est-ce que pour vous, le terrorisme actuel, le terroriste djihadiste, entre dans une de ces catégories ou est-ce que c'est une forme de terrorisme hybride ?
Ben non, justement, ça ne rentre pas tout à fait. Tout loin dans son livre, Jenny Raflick dit « Mais ce sont toutes des formes politiques ». Et c'est précisément la nouveauté, c'est qu'il ne me semble pas que le terrorisme global, c'est ce qui nous semble constituer sa particularité, que le terrorisme global soit politique. Quand il faut lire, bien sûr, les mots dans lesquels s'expriment les terroristes ou les islamistes radicaux. Et dans le fond, ils parlent dans un registre qui n'est pas un registre politique. Qui parle de l'humiliation, de la reconnaissance, de la vengeance, et pas plus tard que dans Le Monde de la semaine dernière, il y a cette jeune candidate au djihad qui dit « je voulais absolument me venger ». Et quand on continue de creuser ce discours, on se rend compte que cette vengeance, elle est autant une colère contre le monde, une colère contre son pays, une colère contre la France, qu'on va retrouver dans des passages à l'acte comme celui de Breivik en Norvège. En d'autres termes, ce qu'a montré encore plus cet été d'ailleurs en France, les actes de terrorisme, et notamment celui de Nice, c'est le rapprochement entre le terrorisme politique, identitaire, islamiste, et un terrorisme qui n'est plus tellement un terrorisme, qui sont des passages à l'acte de droit commun, qui sont des massacres collectifs, les tueurs de masse. Et le tueur de Nice ressemble plus, ou autant, voire plus, à un tueur de masse qu'à un djihadiste. Et il faut regarder cette complexité. Il faut l'accepter. Et pas chercher absolument à rechercher un lien avec Daesh ou avec le califat. En d'autres termes, le terrorisme est hybride et c'est une coproduction entre l'islam et la modernité qui exprime des problèmes internes à l'islam et des problèmes internes à notre modernité démocratique. Et là aussi, il faut les accepter.
À l'islam et à la modernité, à l'islam et à la mondialisation, surtout écrivez-vous. On commémore cet automne les 15 ans des attentats du World Trade Center. Al-Qaïda avait et a occupé longtemps le spectre du terrorisme pendant plus d'une décennie. Ce terrorisme global que vous abordez aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment nouveau par rapport à cette nébuleuse Al-Qaïda ?
Alors Al-Qaïda n'est pas nouveau parce qu'il marque bien sûr, avec les attentats du 11 septembre, il marque bien sûr une rupture dans l'histoire, et il referme en quelque sorte cette période après la chute du mur qui était une période d'incertitude dans laquelle on croyait au cosmopolitisme, dans laquelle on a fondé la justice pénale internationale. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que dans cette époque, c'est aussi l'époque des actes de repentance pour les préjudices commis tout au long de l'histoire. On pense par exemple celui du pape concernant Galilée ou celui de la reine d'Angleterre sur pour la Nouvelle-Zélande. Et donc ce qui est intéressant, c'est que, en quelque sorte, le terrorisme global est à la même échelle. Cette échelle d'une histoire, mais une histoire très profonde qui ne peut se solder que par des actes de vengeance ou de repentance, mais on est sorti à l'évidence de la politique.
Face à cela, que peut faire l'État ? Cette mondialisation, écrivez-vous, affaiblit le lien politique entre un territoire, une population et une légitimité qui était au cœur du modèle westphalien. Ça veut dire que l'État se retrouve complètement dépossédé ou déconcerté, déboussolé face à cette déterritorialisation ?
Eh bien oui, parce qu'il ne sait pas comment d'abord se représenter cette violence. Ça c'est très manifeste mais c'est très manifeste également dans les commentaires, y compris dans les médias, de voir cette impossibilité à qualifier cette nouvelle forme de terrorisme. Et par exemple, l'explication majoritaire, c'est de l'expliquer par le califat, comme s'il y avait une sorte de résistance à comprendre ce qui se passait chez nous.
Par l'intervention française
ou par l'intervention française, exactement. Mais à chaque fois, ou par la colonisation, ou par le manque d'intégration, ou par la pauvreté. Et en fait, toutes ces explications ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Parce que le terrorisme a muté depuis, disons, ces 5 ou 10 dernières années. Si au début, celui de Mohamed Kelkal, il est le fait de jeunes gens d'origine arabe, de familles musulmanes, qui vivent mal leur intégration. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas intégrés, parce qu'en fait, les études fines, par exemple comme celle de Farhad Khosrokhabar, montrent que le passage à l'acte, la radicalisation, est aussi une réaction à une intégration trop réussie. Au vertige, par exemple, que vont éprouver les candidats au djihad devant la liberté sexuelle qui leur est offerte en Occident, et qui est proprement vertigineuse et dont ils cherchent à se protéger. Donc, une histoire qui était très... et on trouvait le même phénomène en Angleterre, c'est-à-dire les banlieues pauvres de gens non intégrés. Aujourd'hui, nous avons des femmes, des convertis, des classes moyennes, des gens éduqués, des familles entières, des grands-parents. Nous avons donc des profils extrêmement divers, à tel point qu'il est très difficile, voire impossible, de dire qu'il y a un profil de djihadistes et que ça, ils seraient tous animés par des convictions religieuses. C'est infiniment plus compliqué que cela. Il se trouve que je fais des groupes de parole en prison avec des jeunes condamnés pour des affaires de terrorisme ou étiquetés radicalisés, c'est absolument évident, ça saute aux yeux de voir la diversité de leur parcours, la diversité de leur personnalité, de leur motivation, et on peut pas du tout dire que de leur niveau en théologie, il y en a qui connaissent absolument rien à l'islam, beaucoup d'enfants de couples mixtes et beaucoup de Français, je pense notamment à un qui avait un accent du Sud extrêmement prononcé, qui n'avait aucun contact culturel ni familial avec l'islam.
À partir de là, difficulté à définir l'ennemi finalement. Même si François Hollande a tenté de le faire, hein, on se souvient de ses mots devant le Parlement, réuni en congrès, il avait déclaré « la France est en guerre, c'est un acte de guerre et c'est le fait d'une armée djihadiste ». Il avait nommément désigné l'ennemi, hein, le groupe Daesh, mais en fait quand on passe à échelle humaine, c'est beaucoup plus compliqué que ça, de réussir à savoir qui peut être potentiellement l'agresseur entre guillemets, du territoire français et contre qui se battre si nous sommes en guerre.
Oui, et ce n'est pas adapté à la situation. Et nous avons appelé notre livre « Démocratie sous stress » précisément parce que nous pensons qu'il manquait une catégorie entre l'état normal, l'état ordinaire de paix et l'état de guerre qui fournit l'essentiel du vocabulaire de la lutte contre le terrorisme et qui n'est pas adapté. Qui n'est pas adapté comme l'état d'urgence le montre tous les jours. C'est-à-dire que on a besoin de mesures nouvelles, de réactions nouvelles, intelligentes, qui n'aggravent pas le mal, beaucoup plus que de propos guerriers, va-t-en-guerre, et qui ont d'ailleurs ceci de commun qu'ils correspondent tout à fait au discours djihadiste. C'est très frappant de voir comment un discours va-t-en-guerre est dans le fond à les mêmes références, inversées bien sûr, que les djihadistes. Mmh. C'est Charles Martel, c'est-à-dire c'est une sorte d'Amargedon, de combat final entre l'islam et l'Occident qui va donner la victoire définitive aux Lumières ou au contraire au Califat. Mais ce n'est à mon avis pas la bonne approche du tout pour traiter cette nouvelle forme de violence, pour l'instant intraitable.
Pourquoi ? Elle est même contre-productive, cette approche ?
Elle est contre-productive parce qu'aujourd'hui, nous condamnons lourdement des jeunes qui reviennent de Syrie. Qu'ont-il fait en Syrie ? Nous ne le savons pas. En quoi ont-ils violé l'ordre public français? Nous ne le savons pas. Nous savons que dans les 100 qui vont venir sur 100 individus qui rentrent de Syrie, 3, 5, 10 commettront des attentats. Beaucoup reviennent parce qu'ils sont dégoûtés par ce qu'ils ont vu ou par ce qu'ils ont fait ou parce qu'on leur a demandé de faire, parce qu'ils ont compris qu'en fait ce n'était pas l'Eldorado qu'ils attendaient, que c'était des faux musulmans, que leur véritable pays était la France. Et j'ai cette réflexion qui m'a été faite par un des garçons que j'ai rencontré en détention. Il m'a dit « Nous sommes partis parce que nous étions des sous-citoyens et nous sommes rentrés comme des sous-prisonniers ». Et donc, je pense qu'il y a un traitement à imaginer, à inventer, qui ne soit pas celui de la prison pour les retours de Syrie.
France Culture, il est 13h18.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
La Grande Table avec le magistrat Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice, invité ce midi pour son essai qu'il co-signe avec Michel Rosenfeld, Démocratie, avec un S sous stress, les défis du terrorisme global. On vous entend, Antoine Garapon, cette déterritorialisation qu'implique, qu'engendre ce terrorisme global va finalement ébranler le cœur même de nos démocraties qui étaient mal préparées à cela ou pas du tout préparé à cela. L'enjeu va donc être aujourd'hui de forger de nouveaux outils, des outils plus à même de saisir ce nouveau défi que lance ce terrorisme déterritorialisé à nos démocraties, que vous appelez donc le terrorisme global. À quelle réorganisation, dans l'urgence, assiste-t-on depuis les premiers attentats ? Quelle réorganisation des institutions ?
On assiste à une intensification, mais très, très progressive, persistante et unilatérale du dispositif antiterroriste. Je constate par exemple que le 21 juillet, la loi a augmenté dans des proportions très importantes la capacité des services de renseignement d'écouter non plus seulement une personne, mais son entourage. Ce qui est un saut qualitatif énorme et qui avait été bien précisé qu'on ne le franchirait pas au mois de novembre dernier.
Pendant la loi renseignement.
Donc on voit bien que les barrières sautent les unes après les autres et je crois que le véritable risque, il est moins institutionnel que dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on voit se profiler, puisque notre propos c'est de dire le terrorisme global introduit une disproportion, une discontinuité, une rupture dans la communication du fait qu'il ne parle pas politique et qu'il ne nous offre pas beaucoup de prises communes. Ça veut dire
en même temps, Antoine Carabon, pardon, vous décrivez parfaitement le traumatisme engendré par ces attentats, l'angoisse aussi de la population. Il y a une demande de prévention aujourd'hui, même si on nous répète que le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'il ne fallait pas adapter cette réponse, faire quelque chose et puisque vous le dites vous-même que le droit n'était pas forcément adapté à ce type de situation, repenser nos outils.
Alors, l'adapter certainement, il faut être conscient que le risque, c'est celui d'un clivage, c'est-à-dire c'est celui d'une servitude volontaire. Dans le fond, c'est celui d'une population, d'une opinion qui préférera ses libertés, voire son confort, et qui abandonnera certain nombre de droits. Et donc, qui préférera la paix à ses libertés, en quelque sorte. Donc, il me semble que là, il y a un véritable danger. Lorsque le président Hollande propose la loi sur la déchéance, ça donne lieu à un débat vif entre politiques et avec des juristes, il est soutenu par une proportion extrêmement large.
Il le propose deux ou trois jours après l'attentat.
C'est ça. Et il y a 80% des Français...
aux parlementaires de droite.
C'est ça. Et il y a un soutien massif des Français. Et donc, ce qu'on constate aux États-Unis, les Américains sont très attachés à leur liberté. Quand il y a ces interceptions de sécurité, une majorité d'Américains ne se dit pas choqué. Ils ne se disent pas choqué parce qu'ils disent c'est pour notre sécurité, tout d'abord. Puis deuxièmement, nous ne sommes pas terroristes. Comme il n'y a pas d'identification possible aux terroristes, à tort, à mon avis, il n'y a pas de souci pour ces libertés. Donc le risque que nous courons, c'est le risque d'une sorte de clivage, d'une zone de liberté qui seront maintenues. Vous avez parlé du mariage pour tous, qui est le signe même d'une société de plus en plus libérale, et qui isolera, se cloisonnera à l'égard des personnes suspectes de radicalisation qui, eux, elles auront beaucoup moins de droits.
Vous venez de dire qu'il faudrait qu'on s'identifie un tant soit peu aux terroristes pour essayer de trouver une solution, une clé peut-être, dans cette période quand même très compliquée, c'est difficile.
Quand une jeune fille d'une famille catholique pratiquante du 16e arrondissement quitte la France pour rejoindre la Syrie, c'est quelqu'un à laquelle je ne dis pas qu'il faut s'identifier, mais on peut comprendre et surtout on peut reconnaître qu'elle n'est pas du tout de ces banlieues défavorisées. Il y a dans le terrorisme la recherche d'une sorte d'utopie contre-démocratique. Ils veulent des règles rigides là où nous sommes dans les sociétés libérales, ils veulent de la détermination par le sacré là où nous sommes dans une ouverture, une indétermination démocratique. Et je crois qu'il faut être capable d'entendre. Oui, ces jeunes que je rencontre en prison sont incroyablement français et c'est avec eux, c'est pour eux qu'il faut... penser des mesures de façon à ce que ces poches entières de population ne se versent pas de l'autre côté.
Et ça, pour les politiques, c'est pas possible. On se souvient des propos de Manuel Valls, essayer d'expliquer. Il faut pas aller dans ce sens-là. Ça serait excuser pour un politique. Ce que vous demandez, c'est très difficile.
C'est pour ça qu'il y a des juges. C'est pour ça qu'il y a des juges et qu'il y a des contre-pouvoirs qui ne sont pas directement liés à l'opinion et qui peuvent prendre des mesures impopulaires. C'est vrai de tous les pays. Lorsque la Cour suprême des États-Unis déclare que le chauffeur de Ben Laden a le droit de faire un recours devant la Cour suprême, c'est pas très populaire aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, on retrouve l'essence même de la séparation des pouvoirs. Et je crois que c'est pour ça qu'il est aussi important de laisser les juges. Et on le voit d'ailleurs, on le voit au tribunal de Paris. La différence entre les réquisitions qui sont toujours d'une plus grande fermeté, avec des mesures incompressibles, et des juges de la chambre de l'instruction ou des tribunaux qui cherchent tant bien que mal à faire du cas par cas, à regarder les dossiers, à ne pas avoir une réaction automatique.
Et ils vont tenir ?
Espérons-le, ça dépend de nous tous.
Vous évoquez aussi la loi du talion. Hein. Pour vous, il faut faire attention, il faut non seulement comprendre d'un côté, mais il faut aussi faire attention de ne pas rendre en permanence coup pour coup. Refuser quelque part de se mettre au niveau de l'adversaire, c'est plus qu'une question de posture. De toute façon, le rapport est dissymétrique entre notre démocratie et le terrorisme aujourd'hui. Vous êtes allé regarder comment ça se passait du côté de la Cour et de la jurisprudence de la Cour suprême israélienne dans ce principe de proportionnalité. Qu'est-ce que vous en ressortez ?
C'est-à-dire qu'on en revient au début de notre conversation et il est très difficile dans ces temps troublés d'occuper la fonction tierce. Et on a été très intéressé, vu qu'on fait une comparaison des jurisprudences internationales, par l'arrêt de la Cour israélienne, l'arrêt Beit Zurich, sur le mur. La Cour suprême décide de modifier le tracé du mur. Je ne prends pas parti sur le mur en soi, qui est une séparation, sur l'arrêt en question, ils disent, il faut trouver une proportionnalité entre la protection des populations israéliennes, qui n'est pas absolue, qui n'est pas un principe absolu. En face, il y a des gens dont les enfants vont à l'école, qui ont des champs d'olivier, etc. Et il modifie le tracé du mur, qui réduit donc le niveau de sécurité des populations israéliennes et qui augmente un peu la liberté ou l'exercice des droits les plus quotidiens de populations palestiniennes. Et ça nous semble être un exemple, c'est-à-dire que cette sorte de néo-sécuritarisme qu'on voit se mettre en place aujourd'hui, il est unilatéral. Il ne pense qu'à notre sécurité à court terme. Et je crois que le long terme, c'est précisément trouver ces mesures de mise en proportionnalité je ne parle pas d'identification, mais de mise en proportion, en relation avec les personnes susceptibles de basculer.
Vous montrez la fragilité des réponses politiques mises en place après les attentats, lors de l'état d'urgence. L'exécutif l'avait décrété au lendemain des attentats du 13 novembre. Il a été reconduit au lendemain de l'attentat de Nice pour une durée de 6 mois, ce qui devrait nous amener pour l'instant jusqu'à janvier. Et puis on a entendu toutes sortes de propositions sorties du chapeau par la droite comme par la gauche, et notamment l'hypothèse d'un Guantanamo à la française, où on pourrait mettre tous les fichiers S ou les jeunes de retour d'Irak ou de Syrie, sur une sorte de présomption de culpabilité, des solutions qui évidemment vous fâchent plutôt, Antoine Carapon, pourrait-on dire comme
Non seulement elles me fâchent, mais elles me semblent extraordinairement dangereuses, menaçantes pour notre sécurité. C'est-à-dire que plus on retient, plus on se situe dans le corps à corps avec les candidats au djihad, plus on augmente leur haine à l'égard de la France, qui est en même temps leur propre pays, et plus on augmente le risque qu'ils passent à l'acte, notamment quand ils sortiront de prison. Donc c'est pour ça que c'est de la sécurité à la petite semaine, passez-moi l'expression. C'est-à-dire, et on assiste aujourd'hui aux premières sorties sèches. Il y a un problème très important pour les institutions dans la guerre contre le terrorisme, c'est son illimitation. On ne sait pas pour combien de temps nous aurons à subir cette menace, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas signé de déclaration de guerre. Il n'y a pas de troupes, il n'y a pas d'armée organisée qui s'affrontent, comme par exemple sur le terrain à Mossoul. Et donc, quand est-ce qu'on est sorti du terrorisme ? On ne le sait que 6 mois, 1 an, 18 mois après, quand il n'y a pas eu d'attentat. On est peut-être parti pour une période longue, et donc maintenir l'état d'urgence ou faire un Guantanamo, ce qui est encore bien pire, serait tout à fait contre-productif.
Et à propos de temps long, quand auront lieu les premiers procès ? On a entendu cette semaine les avocats de Salah Abdeslam, qui était l'un des membres du commando du 13 novembre, renoncer à le défendre parce qu'il ne sortira pas de son silence, selon ses avocats, et notamment maître Franck Berton. On attendait quand même, pour avoir réparation, peut-être une parole de ces personnes qui, visiblement, n'arrivera jamais. Donc comment parvenir à cette reconstruction dans le silence ?
Eh bien, je crois que c'est à nous de faire ce travail de reconstruction, parce que attendre, on a réussi avec Salah Abdeslam, mais dans le fond c'est assez exceptionnel. La plupart d'entre eux se font tuer par ce qu'on appelle les suicides par procuration, par la police, ou se font exploser lors de l'attentat. En général, dans plusieurs attentats, il y a un membre qui vient surveiller que les autres se font bien exploser, pour être sûr que il ne restait pas de traces. Donc la justice est mise en échec. Elle est mise en échec parce que on aura très peu de procès ex poste après. Et en revanche, on demande à la justice d'empêcher que des attentats interviennent. On lui demande de faire ce qui est très difficile, c'est de punir les gens avant qu'ils aient commis des attentats.
C'est la distinction que vous faites entre la préemption et la prévention.
Bien sûr. Et c'est une distinction majeure, parce que on peut bien sûr faire des délits obstacles, comme disent les juristes, comme le port d'armes ou comme la défense de sortie du territoire ou l'appartenance à une cellule terroriste. Mais ça restera toujours des qualifications insatisfaisantes. Ça veut dire qu'il faut bien trouver des solutions ailleurs.
Alors comment vaincre le stress des institutions démocratiques, ne pas promettre à l'opinion une sécurité que l'État sait impossible, écrivez-vous Antoine Garapon. Mais il faut accompagner les nouveaux équilibres entre sécurité et liberté d'une réflexion sur les attitudes vis-à-vis de la peur. Réflexion que nous avons ouverte avec vous aujourd'hui et que nous poursuivrons dans les prochaines semaines avec d'autres observateurs, sociologues, historiens. Nous recevrons notamment Farhad Khosrokavar, que vous citez à de nombreuses reprises, pour son ouvrage Apparaître. Ce sera la semaine prochaine sur la radicalisation en prison. Merci beaucoup à vous Antoine Garapon. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, Claire Maillot, Clémence Marie, Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc, à Inès McGriff et à Farah Kerram sur le fil des réseaux sociaux. Demain, une chanteuse lyrique, Marie-Nicole Lemieux, et Olivier Rey, un mathématicien philosophe, dans la deuxième partie de La Grande Table. Merci Benoît Bouscarel.
Merci.